France Bleu Saint-Étienne-Loire, La Vie en Bleu, Corinne Madec.
La Vie en Bleu avec notre invité. Bonjour David.
Bonjour.
On va parler de l'obsolescence programmée de tous les appareils, de tous les objets qu'on peut acheter, parce que finalement on se rend compte que, grosso modo, voilà, je vais y aller franco de port, on se fait quand même bien arnaquer. Hein.
Un peu beaucoup.
On va beaucoup
depuis
en parler.
50 ans seulement.
Voilà, tout au long de cette émission. Donc l'obsolescence programmée, finalement c'est l'ensemble des techniques hein, qui sont destinées à réduire la durée de vie d'un produit, augmenter bien sûr le taux de remplacement, nous faire acheter pas mal d'objets, des objets qu'on ne peut pas ou plus ou qu'on ne sait plus réparer. Donc si vous avez des témoignages à nous apporter, si vous avez des questions à nous poser, si par exemple vous voulez réparer, que sais-je, votre aspirateur ou votre téléphone portable parce que ça porte beaucoup hein, sur les nouveaux objets d'utilité comme les portables, les imprimantes et les ordinateurs et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez poser vos questions bien sûr. Et c'est le beau Farid qui va vous répondre. 04 77 10 00 10. Il est avec nous pour vous répondre avec plaisir, avec douceur et avec le sourire.
9h-11h, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire, La Vie en Bleu.
David de l'Atelier Éphémère est avec nous aujourd'hui. David, on a choisi de parler de l'obsolescence programmée. Donc je le disais tout à l'heure en fait, hein, l'obsolescence programmée, ça veut dire qu'on programme nos objets à tomber en panne. Grosso modo, on fait en sorte qu'on ne puisse pas les réparer. Comme ça, on achète quelque chose. Au bout de 2 ans, par exemple, pour les portables, ou de 3, 4, 5, 6 ans, maxi, par exemple, pour les lave-linges ou les frigos, ils tombent en panne, on ne sait pas quoi faire. On rappelle son vendeur, on en prend un autre. Et ça pose différents problèmes. Et il existe quand même différents types d'obsolescence.
Alors David. Oui, les 3 types qui sont en général... catégorisé. Mmh. Il y a l'obsolescence donc programmée, c'est souvent une panne technique qui survient, donc un composant électronique qui a été mal calibré volontairement pour lâcher au bout d'un certain nombre d'années.
Oui, en général, à la fin de la garantie hein, oui, ça oui. Arrive, si on prend une garantie de 5 ans, on peut être tranquille, 5 ans et 20 jours, c'est arrivé à un avis il n'y a pas longtemps, aller en avant-marche, ça tombe en panne.
Ils sont très forts, il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Hein. C'est des D'accord. ingénieurs, leur boulot, c'est de créer des appareils avec une durée de vie limitée.
Voilà.
À la semaine près, ils savent le nombre d'utilisations par jour à peu près, donc ils savent à tel D'accord. moment, hop, le grille-pain, il va lâcher. Hop. Et ensuite, donc, qui sont encore pires, je trouve, c'est l'obsolescence symbolique qui, grâce à la publicité, au marketing, on incite les gens à acheter le nouvel iPhone, c'est l'exemple type. Quoi. On va même le louer maintenant tellement on veut en changer tout de suite, donc il n'y a plus besoin de l'acheter puisqu'on va on pense déjà à en changer. En fait. Donc,
D'accord.
Voilà, et la troisième, c'est donc l'obsolescence logicielle qui est une... qui a un moyen de rendre des appareils inutilisables, les appareils souvent informatiques ou les smartphones maintenant, grâce à l'obsolescence logicielle. Donc la mise à jour n'existe plus, donc on ne peut plus, soit on a des virus, soit on ne peut plus utiliser, on ne peut plus aller sur Internet, et voilà, et donc le logiciel n'existe pas. Donc grâce au logiciel libre, on peut parfois refaire vivre cet appareil qui est devenu obsolète pour la marque, mais... Enfin, c'est très difficile, il faut s'y connaître, il faut avoir des connaissances. Il faut
être ultra motivé finalement.
C'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Voilà.
D'accord. On l'a vu aussi par exemple avec les cassettes vidéo, où de toute façon on n'a plus de lecteurs, avec également les platines disques, on en parlait tout à l'heure en antenne, on avait des disques, on avait la platine, après on est passé au CD, maintenant ça n'existe plus, enfin bon voilà. Et puis c'est la marche de la vie, c'est la marche du temps. Ça pose un autre problème, c'est le problème des déchets.
Alors, des déchets, un grand sujet. Donc, j'ai des petites notes là, parce qu'il y a tellement de chiffres que je ne retiens pas tout.
On est noyé sous les chiffres, hein,
donc,
c'est
voilà,
vrai.
Voilà, par exemple, j'ai Serge Latouche qui a écrit un bouquin qui s'appelle Bon pour la casse il y a quelques années. Donc, il explique 150 millions d'ordinateurs sont transportés chaque année dans les décharges illégales du tiers-monde. C'est à peu près 500 bateaux par mois qui partent vers le Nigeria et le Ghana.
D'accord.
Et c'est pas des petites barques. Hein,
c'est des gros bateaux. Oui, oui.
Voilà, donc 75% des déchets électroniques ne sont pas recyclés actuellement. Donc ils partent dans des filières illégales. Donc il y a Cosima Danoritzer, elle s'appelle, qui a fait ce documentaire qui a donné... Qui qui s'appelle Prêt à jeter et qui a le concept d'obsolescence programmée est devenu connu du grand public grâce en partie à ce documentaire.
D'accord.
Et donc c'est là-dedans qu'elle explique où passent les déchets, pourquoi pourquoi il y a autant de déchets, à qui ça rapporte, parce qu'en fait ça rapporte à des gens. De créer des fausses entreprises qui recyclent.
D'accord.
Pour être payées d'un côté et ensuite revendre ces déchets en Afrique pour être payés. Enfin, ils sont payés deux fois pour ne pas recycler des déchets.
D'accord. Donc il y a une, deux, voire un nombre de personnes extrêmement limitées qui gagnent beaucoup d'argent sur notre dos. Nous, parce qu'on achète les choses, qu'on va les jeter. Et puis attention aux problèmes de santé, parce qu'en général, ce sont des petits-enfants qui trient tout ça.
Après, c'est géré par des sortes de mafias. Et donc les enfants vont brûler tout ce qui est composant électronique pour récupérer les métaux précieux, donc l'or et plein d'autres. Mmh. Donc s'intoxiquer les poumons et tout ça pour revendre. Et ça repasse par des filières qui ensuite sont revendues aux grandes marques comme matériel peu cher.
Voilà.
Du matériel qui tombe en panne par la suite parce qu'ils sont recyclés d'une manière tellement... c'est pas du tout comme ça qu'on recycle des composants électroniques. Donc finalement, après, ça peut créer des pannes. Donc on en a vu dans une sorte d'un TGV, je ne sais plus dans quel pays, qui est tombé en panne à cause de composants revendus sur Internet comme du neuf, mais en fait du recyclé.
D'accord. On peut s'effrayer devant tout ça. Mais enfin, on continue à en parler. Si vous avez des témoignages à nous apporter, si vous avez des questions également à nous poser, si vous souhaitez faire réparer, par exemple, vos appareils électroménagers, on va vous donner plein de conseils et puis des adresses également. C'est la société de consommation, c'est comme ça, mais on peut aussi dire qu'on n'est pas franchement d'accord. 04 77 10 00 10, pour toutes vos réactions, on vous attend. Je vous rappelle que nous sommes avec David ce matin de l'Atelier Éphémère.
France Bleu. Jusqu'à 11h, la vie en bleu.
La vie en bleu, aujourd'hui avec David de l'Atelier Éphémère. On parle de l'obsolescence programmée. C'est l'ensemble des techniques, je le rappelle, qui sont destinées à détruire finalement la durée de vie d'un appareil électroménager ou autre qui pourrait très bien fonctionner sans ça. Mais on a des gens qui sont payés pour ça, des ingénieurs qui sont là pour vous dire votre objet, vous l'aurez, allez, un portable par exemple, un téléphone portable, un an ou deux maxi. D'ailleurs, quand vous allez acheter votre portable, on vous dit, oui, bon, il y en a pour deux ans. Puis finalement, quand on fait le compte, ça coûte drôlement cher. On a les machines à laver aussi qui sont programmées pour tomber en panne, les lave-linges, les téléphones. Il y a le scandale des imprimantes aussi. Mais qu'est-ce qui peut être recyclable, Denis ?
Eh bien, pas grand-chose aujourd'hui. Puisqu'il y a de l'électronique partout, donc même dans des appareils... A priori, il n'y a pas besoin d'électronique, mais on en a mis pour faire des petits gadgets. Et c'est ça le piège, c'est le petit gadget de confort qui va faire que c'est de l'électronique, ça va tomber en panne. Et ensuite, ce n'est pas recyclable parce que l'électronique, c'est des dizaines, des centaines de composés chimiques et de matériaux rares qui sont, qui sont imbriqués les uns dans les autres dans des toutes petites puces. Et pour recycler, il faudrait reséparer toutes ces petites matières. Et c'est très compliqué, ça demande autant d'énergie, plus d'énergie que de la fabrication.
D'accord.
Et c'est très long. Il y a actuellement, c'est 75% qui n'est pas recyclé de déchets électroniques. Donc, c'est encore dans ce documentaire, là, Prêt à jeter. Donc, c'est énorme.
Pas recyclable, pas réparable aussi. Et puis, le problème, c'est quand on veut aller acheter un objet simplissime, en se disant, je vais être tranquille, on ne trouve plus.
On trouve plus. Et juste pour revenir sur le fait qu'on nous vende des appareils déjà programmés pour tomber en panne, c'est hallucinant que c'est complètement décomplexé. On nous le dit, donc c'est maintenant l'appareil dure 2-3 ans, alors que nos grand-mères et des machines à laver, qui on dirait nos grand-mères, nos grands-pères, parce que j'espère que tout le monde fait la lessive, qui dure 30, 40 ans et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Moi, j'en vois des fous. J'achète que du matériel d'occasion maintenant, donc des vieux trucs des années 70-80. On peut les réparer et on sait que ça va encore durer puisque ça a duré à 30-40 ans. Alors que on nous dit maintenant ça dure 2 ans comme si on avait désappris, comme si on savait plus faire du matériel robuste qui dure. On essaie de nous faire croire que bon, on sait pas faire, on pourra jamais fabriquer quelque chose qui dure plus de 3 ans. Alors qu'on l'a fait à une époque, mais...
Mais c'était une autre époque, voilà, malheureusement. Quand on aura bien dépouillé la Terre, qu'est-ce qu'on va faire ?
Alors là, c'est pas moi de le dire, j'en sais rien. Peut-être qu'on réapprendra à se passer de téléphone portable, d'écran plat, de tous ces gadgets qui, certes, sont utiles et pratiques, je retire pas ça, mais c'est ça, de, ça a pris une place beaucoup trop importante pour moi dans, dans la vie des gens. C'est devenu, j'ai encore lu un bouquin sur le téléphone portable qui compare ça à des drogues dures au niveau des effets dans le cerveau.
D'accord,
c'est devenu une dépendance telle que le cerveau est complètement... Le matin, c'est la première chose qu'on fait. On allume son téléphone, on dort avec. C'est...
Bon, voilà, sachant qu'un téléphone portable, ça a l'air de rien parce que c'est tout petit. Mais c'est le même type de pollution qu'une machine à laver.
Ah, c'est une boîte électronique, c'est pire. Parce qu'une machine à laver, elle va avoir une carte électronique, finalement.
Mmh.
Et tout le reste va être plus facilement recyclable, parce que c'est du métal, tout ça, on sait recycler. Par contre, l'électronique, dans un téléphone portable, c'est quasiment que de l'électronique et des produits chimiques impossibles à recycler.
D'accord. Qui détient ça encore qui peut fournir tous les produits qui servent à fabriquer ces composants électroniques?
Alors là, il y en a beaucoup, donc c'est compliqué de répondre simplement. Mais je parlais du hors antenne, là, du coltan, qui est un des plus connus. Le coltan qui se trouve au Congo et encore en Asie. Donc la Chine a décidé d'arrêter de l'exporter parce que ça rapporte beaucoup. On ne peut plus fabriquer d'électronique sans coltan. En tout cas, les condensateurs qui vont dans les téléphones portables, dans les consoles de jeu et dans plein d'autres appareils, il faut du coltan actuellement. Donc si on utilise tout le coltan, on peut plus fabriquer. Donc il y a vraiment un enjeu assez important autour de cette matière. Donc, donc pour l'instant, c'est en Chine et au Congo, dans des mines, avec tous les problèmes qu'on connaît des mines dans les pays.
Voilà, et puis tous les problèmes secondaires qui arrivent et qui se greffent à ce gros problème. Donc voilà, on vit au jour le jour, on réfléchit pas, on n'anticipe pas, tout va bien, la vie est belle, mais pour certains, pour l'instant. Si vous réparez vous-même vos appareils électroménagers, si vous avez trouvé la solution pour vous en sortir de cette société de consommation, vous nous appelez 04 77 10 00 10 et justement dans quelques minutes, on vous donne des tuyaux.
Tout le bonheur du monde.
Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
La vie en bleu et l'obsolescence programmée. Michel, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Saint-Étienne, Michel. Vous aviez un témoignage à nous apporter.
Oui, voilà. Bon, j'ai acheté un lave-linge et au bout de 3 ans, il a cassé. Donc, j'ai fait venir le réparateur qui m'a fait le diagnostic et qui m'a dit que j'en avais pour 480 € de réparation.
Mmh.
Donc, bien entendu, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, on ne fait rien. Et j'ai été en acheter une autre.
Voilà. Ben voilà le problème. Et vous avez mis le doigt précisément sur le problème.
Voilà. Alors bon, si vous voulez, j'avais pas pris la garantie 5 ans. J'ai peut-être eu tort, je ne sais pas.
Ouais, mais elle est tellement chère d'un autre côté que franchement, bien sûr.
Je me suis dit, bon, en plus, c'était quand même une bonne marque. C'était Electrolux, donc c'était pas de bas de gamme. Et là, bon, 480 € de réparation, j'ai dit non, Donc voilà, ça m'a bien dégoûté.
Bah oui, vous l'aviez acheté à quel prix cette machine à laver?
Je l'avais acheté à, je crois, dans les 530-540 €.
Ah ouais, non, mais vous rendez compte. C'est quand même un scandale. Voilà. C'est un scandale, Denis.
C'est vraiment un scandale, comme vous dites.
Oui, non, mais c'est pour ça qu'on fait cette émission aussi. On est là pour dénoncer, puis on a le droit de dire aussi qu'on n'est pas d'accord avec toutes ces choses qu'on nous vend.
Comme vous disiez tout à l'heure, moi, ma première machine à laver venait de Manufrance, mais elle a fait 20 ans.
Mais oui, et voilà. Et elle n'était pas bourrée d'électronique, on n'appuyait pas sur le bouton avec une petite chanson.
Des petits messages.
Compliqué, j'aime pas du tout en plus, parce que je trouve que c'est compliqué. Bon, il y a plein de choses que je comprends pas tout. Donc bon, mais moi j'aimais mieux mon vieux...
Exactement.
Il m'a duré 20 ans, quoi.
Et puis on a.
C'est pour tout, hein.
Eh bien, bien sûr, on a 50 programmes en plus dessus qu'on n'utilise jamais.
On s'en sert pas.
Voilà. Donc on a.
Je faisais bien comme on m'avait dit, je mettais du Calgon. Là, on m'a dit, c'est pas la peine. Sur Saint-Étienne, il n'y en a pas besoin. Vous foutez de l'argent en l'air. Bon, ben maintenant, j'en mets plus. Je vais bien voir ce que ça va donner. Donc on ne sait plus qui croire.
Ouais, voilà. C'est vrai.
C'est vraiment.
Denis, à propos des réparations, alors là, vous avez mis le doigt sur le problème. Un, parce qu'on achète des choses qui sont très chères. Oui. Deux, dont on n'a pas forcément l'utilité, parce que tous les programmes, on s'en fiche avec le petit truc bleu qui vous accueille en vous disant bonjour, et puis après, quand c'est terminé, on vous dit bonne journée. Oui. On s'en fiche un peu, parce qu'en général, on ne regarde pas. Ensuite, si, moi j'ai ça sur la mienne.
Ensuite, moi, vous savez pas ça.
Ensuite, on a, ça marche pas très longtemps et on peut pas réparer. Et voilà.
Et non.
Parce que le coût est trop important.
Si vous voulez, c'était le tambour qui était cassé et mon mari m'a dit dans le temps, il y avait juste un boulon à changer. Et là, il a fallu changer tout le tambour. Ouais. C'était tout collé, tout machin, hein. C'est fait exprès, quoi. Donc, mon mari m'a dit, moi, dans le temps, je pouvais te le changer, quoi. Je mettais je changeais juste le vis et c'était reparti. Mais
alors,
là, bon.
Denis, on a des ateliers.
David,
excusez-moi, pourquoi je vous appelle Denis, n'importe quoi. David, on a des ateliers.
Alors, il y a des ateliers. Alors oui, moi j'ai créé un atelier. Alors, juste pour revenir sur la petite intervention, là, avant... au sujet des marques, donc il y a des bonnes marques, mais les bonnes marques maintenant fabriquent aussi du matériel de mauvaise qualité. Donc les bonnes marques d'avant, maintenant c'est compliqué. Donc je vais pas en citer.
Mais quand on vous le vend, c'est ce qu'on vous dit. Quoi.
Bien sûr, pour vous le vendre plus cher.
Voilà. Ensuite. Ce que je voulais dire, c'est au niveau des réparateurs et des... Il y a deux sortes de réparateurs. Il y a les réparateurs qui vendent du neuf et les réparateurs qui juste sont réparateurs. Donc, c'est pas la même chose parce que ceux qui vendent, ils vont chercher quand même plus à vendre parce que ça leur apporte plus. Donc, il vaut mieux appeler un réparateur qui fait juste de la réparation. Après, le coût de la réparation... je vais pas dire que les réparateurs sont trop payés. Il faut bien en vivre. Donc, le coût de la main-d'œuvre, elle est légitime. Après, le coût des pièces détachées, souvent, est disproportionné. Donc, la somme des deux fait qu'on ne répare pas parce que ça atteint au moins la moitié du prix de l'appareil. Et les appareils sont de moins en moins chers parce qu'on exploite tout le monde sur toute la chaîne dans le marché. Donc, les appareils sont trop peu chers et la réparation est du coup disproportionnée. En fait, c'est ça. Donc, on achète des appareils pas chers qui ne durent pas longtemps au lieu d'acheter des appareils plus chers qui durent trop longtemps.
C'est comme tout maintenant, c'est même pour les meubles. Les jeunes, ils s'achètent des trucs chez Ikea, mais ils ont raison. Ça leur plaît plus, ils changent. Nous, dans le temps, on avait du beau meuble, machin. Et là, maintenant qu'on veut s'en séparer, même le secours populaire n'en veut pas.
Ben oui, non, mais c'est ça. C'est la société de consommation. Imaginez-vous que c'est né quand même aux États-Unis en 1938, où un mec génial a eu cette idée en disant, finalement, on va relancer la consommation. Et si on jetait tout?
Si on faisait l'obsolescence.
Voilà. Michel, en tout cas, merci beaucoup parce que vous avez bien illustré cette émission. David, avant de se quitter, parce que le temps tourne.
On n'a pas parlé de l'atelier, finalement.
On n'a pas parlé de l'atelier. On va en parler et on accueillera Dominique aussi.
D'accord.
Allez-y.
Et donc, moi, j'ai monté une association qui s'appelle Atelier Éphémère, qui est une... Je me suis rendu compte que les gens étaient un peu perdus face à leurs appareils en panne. Donc, ces ateliers sont nomades, donc ils sont dans des centres sociaux, au Café Lecture, le Remue-Ménage à Saint-Étienne, au Globe 42, à quatre endroits régulièrement et à d'autres moins régulièrement. Et donc, le but de ces ateliers, c'est que vous veniez avec votre appareil et on apprend ensemble à le réparer. Donc, on ne va pas réparer à votre place, vous apprenez, donc vous prenez le petit tournevis. On vous explique comment ça marche. S'il n'y a pas de vis, on dit, pourquoi il n'y a pas de vis? Ou alors, au moins, on comprend. Parce que le démontage, c'est quand même une des étapes les plus compliquées de la réparation actuellement, parce que c'est collé, il n'y a plus de vis, c'est des embouts improbables. Donc voilà. Donc le but, c'est de un peu se repartir de là en se disant, même si mon appareil ne refonctionne pas pour plein de raisons, je l'ai quand même ouvert, j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai compris des choses et peut-être la prochaine fois, je saurai, ça sera un fusible et tout le monde sait changer un fusible.
D'accord. Voilà, exactement. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez sorti un petit fascicule aussi.
Oui, un petit guide.
Un petit guide.
72 pages quand même.
Pour réparer.
Et donc, ce guide est fait pour appréhender un appareil en panne quand on n'y connaît rien. Donc, le mieux, c'est de venir à un atelier quand même, si vous pouvez.
Voilà.
Mais je l'ai écrit en essayant de me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît rien. Donc, en prenant les bases de l'électricité, la sécurité, le démontage, et puis tout ce qu'on peut trouver dans un appareil, une pompe, une résistance.
Et c'est très important. Merci en tout cas, parce qu'il suffit quelquefois de peu, de très très peu, pour remettre un appareil en marche, et puis pour éviter de tomber dans ce cercle dans ce cycle infernal de la consommation.
Je pense qu'on répare 65% dans l'atelier éphémère, c'est quand même bien. Et donc, la liste ici, il y a 90-95% des réparations, c'est moins d'un euro. Donc c'est moins d'un euro en termes de... La main d'œuvre est gratuite, mais par contre, ça va être de l'huile, de l'étain, ça va être presque rien. Des fois, il y a une pièce à 30 euros, mais souvent, c'est un fil coupé, un fusible, de la graisse, de l'huile, beaucoup de nettoyage. Beaucoup d'appareils tombent en panne à cause d'un simple encrassement, en fait. Donc,
C'est génial. Bon, on y va avec des petits appareils, évidemment, parce que je vois pas Michel arriver avec sa
machine à laver. Ça m'est déjà arrivé, ça arrive, ça arrive, mais rarement. C'est plutôt grille-pain, bouilloir, chenille-fille, machine à coudre. Voilà,
tout
ce qui se transporte.
Super, ça s'appelle l'atelier éphémère.
L'atelier éphémère, donc il y a un site, ateliereéphémère.org. Là-dessus, vous pouvez contacter. Il y a une partie contact. Il y a aussi une liste de sites d'entraide de réparation parce qu'il y a beaucoup de forums pour aider, avec des professionnels qui donnent un peu leur savoir-faire. Et aussi l'agenda avec où se trouvent les ateliers, à quelle heure et quand, parce que c'est variable. Donc,
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
À très bientôt. J'espère en tout cas que vous aurez l'envie maintenant d'aller réparer vos appareils électroménagers au lieu de les jeter et d'en racheter d'autres. Je vous dis à très bientôt. Demain, on va parler retraite avec Estelle Goutorbe de la CARSAT. Dans quelques minutes, nous allons retrouver notre expert. Et puis Vanessa Lambert également pour sa chronique santé, bien-être. On saura tout sur la langue. Et pour l'expert, c'est Edouard Bouchu de l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement.
La vie en bleu, la vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr.